Du coup, peut-être, est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Il y a un micro, je crois, qui peut circuler dans la salle, s'il y a une question. Yeah.
Pardon? Et vous dites Olivier?
C'est une question ou la
Non, ce n'est pas une question. Excusez-moi d'être un intrus, parce que vous dites des questions, moi je vois des questions. Ouais. Et merci pour les approches et félicitations Annabelle pour tes approches. J'aime vraiment, c'est vraiment intéressant. Et je voulais dire, et pour moi, j'ai des problèmes avec l'école. Je commence à avoir des problèmes avec l'école parce que l'école commence à nous détacher avec notre propre vécu. Et comment pourrais-je m'expliquer? En Haïti, dans les discours occidentaux, de très souvent, il crée sa petite école avec ses fans pour parler ses propres paroles et pendant qu'il fait quoi, il parle de nous. Il parle de nous sans nous. Maintenant, dans le vaudou, c'est pas comme ça. L'Occident a le vocabulaire. Nous avons une manière de faire la chose. Et c'est pas eux qui créent la chose. La chose était déjà là. Nous avons une manière de faire et on ne croit pas dans les discours, on croit dans les actions. Et dans le vaudou encore, comme vient de dire James, la question d'écologie, c'est pas une chose séparée, c'est pas une chose à part. C'est tout à fait, on vit ça chaque jour. On vit ça chaque jour et si on prend avec cousin Zaka, qui est le roi de la forêt, qui est le roi pour cultiver la terre. Non seulement avec cousin, pour cultiver la terre, pour faire respecter les arbres, on dit bon, dans cet arbre-là, c'est l'habitation, c'est le reposoir de tel roi ou de cousin ou au goût. Ça peut être pas au goût non plus. Ça peut avoir, c'est peut-être un roi qui manifeste dans la tête de l'un de nos grands-parents. On peut adhérer ça à un arbre. C'est pareil pour une source de l'eau aussi, mais quand l'Occident prononce ces mots pour dire et on va parler de l'écologie, on va parler et pour les Haïtiens, ils ne parlent pas des Haïtiens, ils prononcent sa compréhension des Haïtiens. Il ne parle pas de nous, vraiment. Comme Annabelle vient de dire, pourquoi pas nous inviter de nous prononcer la parole? Parce que c'est à nous de... On a beaucoup de choses à dire. On a beaucoup de choses à dire. Déjà, c'est nous qui vivons les vécus. Et pourquoi c'est pas à nous d'inviter alors? C'est ça ma position.
Merci.
Au fait, juste pour ajouter que quand mon frère Bijou parle des lois, Ben, c'est pour faire référence aux esprits.
Je vais juste poser une question, peut-être pour aider à lancer la discussion à vous qui êtes ici. Et donc, peut-être une partie habite ou connaît ou a grandi autour de Brest ou en Bretagne ou ailleurs. Ce que ça vous fait, en fait, d'entendre nos voix, d'entendre ces perspectives, comment vous. Est-ce que c'est quelque chose dont vous sentez. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez lié? Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît très très loin? Enfin, on peut parler avec une forme de bienveillance, je pense, ici, dans l'échange. Voilà.
Bonjour. Déjà, moi, ça me met un peu mal à l'aise dans le sens où j'ai l'impression de plus connaître actuellement la crise entre l'Ukraine et la Russie que notre propre histoire. Et on parlait de connaissances, justement. Moi, je me demandais, en termes de à Haïti, en Martinique et tout ça, la connaissance, comment est-ce qu'elle se fait? Est-ce qu'elle se transmet officiellement à l'école? Est-ce que c'est cette histoire-là? Est-ce qu'on en parle à l'école? Est-ce que c'est tabou? Est-ce que c'est parce que clairement, nous, en primaire, au collège, au lycée et en études supérieures, on l'étudie pas, ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'on étudie quand même à Haïti, en Martinique et tout ça?
En tout cas, pour ce qui est de la Martinique, moi, je pense que c'est, pour l'instant, on en est à des démarches individuelles, c'est-à-dire que c'est pas du tout enseigné. Enfin, quand James ou Bijou font référence aux lois du panthéon Yoruba, soit du voudou, soit de la santeria cubaine, soit de Candomblé, enfin voilà, il y a plein d'exemples dans la Caraïbe et au-delà de la Caraïbe. Ça, c'est des choses qui pour moi sont de l'ordre de la recherche individuelle et qui ne sont absolument pas enseignées à l'éducation nationale française, puisque la Martinique est française et comme la Guadeloupe. Et non, c'est absolument pas enseigné. Le souci, c'est que le créole prend beaucoup de temps aussi finalement à être enseigné. Bon, maintenant il y a un CAPES de créole, heureusement, mais comme une langue à part entière et qui pourrait être enseignée dès la crèche. D'ailleurs, les tatis le parlent dès la crèche. Hein. Enfin, là, je parle en Martinique, je parle en Guadeloupe, mais je pense que c'est un peu pareil. Et à partir de cette langue-là, qu'est-ce qu'on enseigne à travers cette langue? C'est-à-dire que moi, je crois profondément à cette forme de syncrétisme, puisque tu parlais de triangle tout à l'heure entre l'héritage occidental ou européen, l'héritage amérindien ou taïnos et l'héritage africain. Donc il y a bien, on est bien issus, nous, peuple caribéen, de ces trois héritages. Et à l'école française, le prisme, il reste quand même assez européen. Donc du coup, c'est tout un combat de la part des instits quand elles sont martiniquaises, parce qu'il y a aussi beaucoup de mutations d'instits ou de profs métropolitains aux Antilles. Donc du coup, ça crée la fameuse rupture dont tu parles, ça crée la séparation. Donc c'est comment aussi réinviter, s'ils le veulent bien, des profs et des instits antillais qui reviennent chez eux aux Antilles pour recréer le lien et la transmission, parce que là tu invoques la question de la transmission. La transmission, elle va se faire en bas-feuille. C'est-à-dire qu'elle va se faire soit à l'intérieur d'une même famille, ou soit il n'y a pas d'école, tu vois. Je pense qu'à Haïti ou à Cuba, c'est beaucoup plus structuré. Il peut y avoir des écoles de la Santeria, des écoles du Voodoo. En Martinique, comme on est quand même une île française hyper assimilée, du coup, on va aller à l'église le dimanche, entre guillemets, et puis le lundi, on va aller chez le quimboiseur. Donc ça veut dire que on va, ou alors vous avez aussi des remèdes rasiers, ou vous avez aussi des guérisseurs chez vous en Bretagne, enfin des gens qu'on va aller consulter, tu vois. Donc tous ces remèdes rasiers qui sont une écologie décoloniale, mais clairement quoi, eh ben ça va se faire de manière cachée, ça va pas se faire au grand jour et de manière assumée. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est ça, et c'est là que tu vois le poids de la colonisation et de l'assimilation, en fait. Le fait de pas pouvoir assumer ce syncrétisme. Le fait de pas pouvoir assumer ces rituels au grand jour, etc. De devoir toujours, biaiser, machin. Enfin, bon. Et c'est, moi, personnellement, je trouve ça dommage. Après, peut-être que, certains anciens préfèrent que ce soit, justement retiré. En mode bafeuille pour que ce soit pas non plus, ben justement, qu'il n'y ait pas cette forme du coup d'extractivisme, parce que c'est ça aussi le danger de la connaissance. Si elle est dite ou si elle est diffusée par tous, c'est après comment on la récupère. C'est toujours la même histoire, quoi, qui recommence, quoi. Et c'est là où, donc la transmission, à mon avis, elle a plusieurs échelles, tu vois. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des transmissions connaissances plus officielles, on va dire, et puis celles qui vont se faire de manière, voilà, plus en mode marronnage. Mais ça, c'est déjà en train de se faire, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'Antillais qui ont vécu en France hexagonale et qui rentrent au pays et qui, du coup, ont envie aussi, qui sont de la nouvelle génération, c'est-à-dire qui sont plus jeunes que moi, qui ont 25, 30, 35 ans, et qui ont envie de faire cette forme de marronnage, me semble.
Je voulais ajouter un petit mot juste pour relier et faire écho à ce que disait Annabelle, peut-être pour essayer de poursuivre avec la question que vous posez. Moi, je nommerais pas connaissance ce que j'appellerais plutôt information. Pour moi, une connaissance, c'est une information qui va trouver un corps et qui va trouver un corps pour se situer. Ce qui fait connaissance, c'est notre manière d'intégrer une information. Donc l'extractivisme, c'est l'obsession que tout est information. Dis-moi tes secrets, dis-moi tes mots, dis-moi ta langue. C'est pas tout à fait de la connaissance. Parce que la connaissance, elle va devoir se resituer à partir d'une vie, en fait. On en a beaucoup parlé avec l'ensemble parce que c'est l'une des problématiques à laquelle s'expose Haïti aujourd'hui, c'est-à-dire la voracité de chercheurs qui veulent piquer de la matière et des idées et des imaginaires pour faire des doctorats, pour faire des choses sur Haïti. Mais ça, c'est pas de la connaissance, en fait. Ça, c'est vraiment c'est l'économie de l'information. Et ça, je trouve que c'est important parce que dans ce que raconte Annabelle, revient toujours la question du corps. On a beaucoup parlé avec l'ensemble aussi, comment on recrée de la connaissance en situant. Pour répondre à ta question, je pense qu'il y a vraiment en fait une séparation qui vient de la modernité entre l'esprit et le corps. Et c'est vrai qu'on vit encore, là on va parler du contexte français, mais c'est vrai pour le contexte occidental plus largement, dans cette séparation de nouveau, à l'intérieur de nos corps, entre on croit qu'on pense avec la tête. Nous, une société où et l'école est basée sur remplir les têtes. Donc on fait rien avec le corps. Tu vois, moi mes enfants, ils sont à l'école avec un truc 8 heures par jour. Le corps, il est un peu mis à côté, on peut faire, il n'y a pas une connaissance. Donc la manière de repenser les questions de transmission à l'école, c'est pas simplement changer les infos. Alors moi, je pense vraiment, ça c'est central pour la démarche décoloniale, il ne s'agit pas simplement de changer les contenus, c'est changer nos relations avec les contenus aussi. Ça, c'est vraiment une démarche décoloniale. Est-ce que nos gamins, ils pourraient être la moitié du temps dans des pratiques du corps à l'école et qu'on se dit qu'ils produisent savoir, qu'ils arrivent... C'est pas un vœu pieux, hein. C'est un truc très sérieux auquel je me suis confronté directement avec mes enfants, pour le coup, où tu passes pour un imbécile un peu, alors on dit, bah, vous, quand même, un intellectuel qui demandait que les enfants fassent des trucs avec les corps à moitié du jour, on comprend pas trop, quoi. On sait que vous êtes fan de foot, mais quand même, quoi. Mais je rigole à moitié, mais c'est vrai que c'est très dur de faire passer ça, parce que je pense que la question de la pensée, dont le site serait la tête, c'est vraiment l'héritage de la modernité. Et enfin, peut-être pour faire un dernier lien qu'a fait, sans le dire tout à fait, Malcolm, notre héritage de la modernité, on peut aussi l'appeler autre chose, c'est notre héritage de ce qu'on appelle le capitalisme, en fait. Parce qu'en fait, ça commence où, le capitalisme, en fait? Ça commence en Europe, et ça commence contre quoi? Ça commence le moment où on refuse que les sorcières puissent détenir des savoirs qui ne soient pas centralisés par un pouvoir. Donc ça, on peut le comprendre, parce que déjà, dans l'Europe du Moyen-Âge, se passe ce même processus qui va être la machine du colonialisme, parce qu'il n'y a pas de colonialisme sans capitalisme. Hein. Il faut aussi se rendre compte que c'est un projet économique global, et il commence en Europe. Parce qu'en fait, l'Europe se sépare d'elle-même pour aller séparer ailleurs. Mais effectivement, qu'est-ce qu'on va reprocher aux sorcières moyenâgeuses européennes? C'est qu'elles ont des savoirs qu'elles peuvent garder pour elles. Au Moyen-Âge, au demeurant, les gens, ils savent faire des vêtements, ils savent construire des maisons, ils savent se soigner eux-mêmes. Qu'est-ce qui va se passer, en fait, dans le capitalisme? Bah, tous ces savoirs-là, ils vont être intégrés et tu vas devoir travailler pour pouvoir avoir la possibilité de te soigner, construire une maison par quelqu'un d'autre que toi, acheter des vêtements. C'est ça, en fait, les séparations qu'instruisent le capitalisme. Et c'est ça, on le voit très bien avec la Covid, mais on pourrait le voir avec autre chose, que la possibilité de décider de comment on se soigne nous a été subtilisée. Et ça, c'est une bonne manière de comprendre ce qu'on a fait dans le mouvement colonial sans le penser comme une externalité. Hein. Encore une fois, pour moi, la modernité est d'abord un processus de l'Europe sur elle-même à travers le corps des autres. C'est-à-dire que l'Europe veut devenir quelque chose d'autre et a besoin d'une externalité pour le faire. C'est-à-dire qu'en gros, si on veut inviter on veut créer des systèmes de violence interdits en Europe, il faut les produire ailleurs et les ramener en Europe. Des systèmes de contrôle, il faut les produire ailleurs et les ramener en Europe. Des systèmes de... etc. Donc en fait, tout ce qu'on a fait à l'extérieur, on l'a fait pour le faire à l'arrivée dans nos sociétés. C'est là qu'on doit, nous, être conscients de ça. C'est que les systèmes de contrôle qu'on a créés en Europe, on les a expérimentés dans les espaces coloniaux. Donc on a modernisé, entre grosses guillemets, la société européenne, qui était quand même une société avec beaucoup de systèmes de croyances, de médecine. Tout ce qu'on raconte des autres, là, des sauvages, c'était l'Europe, quoi. L'Europe du Moyen-Âge, c'est ça, en fait. Les gens, ils croient en plein de trucs, ils croient aux esprits, il y a des sorciers, tout ce qu'on a raconté de cet ailleurs existait chez nous. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que quand tu écoutes Sarkozy et Chevènement après dans les années 2000, et qu'ils parlent des sauvageons des banlieues, ils nous montrent, en fait, qu'il y a la reproduction de la chasse qu'on fait aux sauvages dans son propre corps. Moi, je vois un exemple d'un gars qui est connu, qui est un philosophe de télévision, qui s'appelle Alain Finkielkraut, pour ne pas le citer. Et en fait, c'est drôle parce qu'il y a un truc important à analyser avec lui. Moi, j'ai grandi à Évry, en banlieue sud de Paris. Et alors, à Évry, dans les années, je sais pas, autour de 2000, il y a eu un fait divers. C'est des faits divers. Avant, c'était à la fin des journaux. Quand j'étais enfant, il y avait la rubrique fait divers. Maintenant, le fait divers, il est à la couverture et il devient un sujet de société philosophique. Donc, il y a un fait divers. Il y a un viol qui se passe dans une cave. Et Alain Finkielkraut, lui, il écrit un article dans le journal Le Monde. Vous voyez, c'est un journal sérieux, hein, c'est pas non plus... Et il écrit un article sur la question de la pratique des tournantes dans les caves à Évry. C'était ma ville. Je dis, waouh, j'étais pas au courant, tu vois. J'ai habité là, j'ai grandi là. Et là, il va sur un truc où il généralise. Et qu'est-ce qu'il fait, en fait? Le problème de Finkielkraut, c'est pas le fait qu'il y a quelqu'un qui a été violé. Ça, il s'en fout complètement. C'est pas le fait qu'il faut protéger des corps de la violence. Ça, il s'en fout complètement. Le problème, c'est qu'il y a des tournantes et qu'il n'a pas été prévenu, quoi. On lui a pas demandé l'autorisation de produire des violences sexuelles que normalement le maître produit lui-même. Et ça, c'est Freud qui le dit. À un moment donné, la colonie, c'est la réserve de tout ce qu'on n'avait pas droit de faire, mais qu'on a envie de faire. Et donc, quelque part, cette obsession d'écrire à partir d'un fait divers, une espèce d'image globale, des caves gigantesques au pied des immeubles dans lesquels se passent des tournantes tous les jours, t'as envie de lui dire, va voir ton psy, mon garçon, quoi. Parce que là, ce que tu racontes, c'est pas la société, c'est tes propres projections. Et donc, quelque part, il faut se rappeler que l'espace colonial est un espace de projection, de désirs sombres qui appartiennent à nos sociétés, quoi. C'est nous-mêmes qu'on regarde en projetant. Et donc, la question de la violence faite dite aux autres, c'est quand même aussi une violence qu'on pratique sur nos sociétés. Quelque chose qu'on se refuse de regarder dans nos pulsions, dans nos désirs contradictoires.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des questions? Oui.
Peut-être on peut... Peut-être
la,
on
jeune peut faire... fille, la jeune fille...
Et je propose que s'il y a plusieurs questions, on peut peut-être en prendre trois. Et comme ça, on y répondra...
Mais c'est pas trop sur ça, mais c'est une question pour Annabelle. Comment en Martinique vos spectacles ils sont reçus? Est-ce qu'ils sont reçus pareil qu'ici ou différemment?
Bah, je vais répondre tout de suite parce que c'est une jolie question. Bon, donc je rappelle que la Martinique c'est 380 000 tout à l'heure, mais enfin oui, bon, à peu près, hein, 350 000 habitants. Donc je sais pas Brest combien c'est d'habitants, mais en gros, une fois que mon spectacle il est joué une fois ou deux, j'ai plus vraiment de public, quoi. Donc du coup, il y a cette difficulté là aussi et qui ne m'est pas propre, mais à beaucoup d'artistes antillais de devoir s'exporter pour pouvoir vivre de son métier, être donc visibilisé sur la scène hexagonale ou sur la scène caribéenne ou la scène internationale. Ensuite, pour répondre plus précisément à ta question, dans Ame Bloucha, par exemple, où je suis nue pendant 50 minutes et où la nudité peut être... Alors, c'est pas un sujet tabou, mais je pense qu'il y a eu cet écœurement aussi, peut-être, de voir sur nos plages autant de touristes, les seins à l'air, etc. C'est-à-dire qu'il y a la pudeur. Chez nous, il y a quand même la question de la pudeur. Et donc, peut-être que pour une fille comme moi, une fille de là-bas, ça se fait pas, quoi, d'être nue à poil sur scène comme ça pendant 50 minutes. Et en fait, ça a été hyper bien accueilli. C'est-à-dire que moi, j'étais, comment dire, touchée de voir que je pouvais toucher mes gens. Parce que c'est ça aussi la question. C'est est-ce que moi, en tant qu'artiste, je suis utile chez moi, ou est-ce que je vais devoir m'exiler, m'exporter pour pouvoir me sentir utile ailleurs. Et je pense que le plus beau cadeau qu'on peut me faire, c'est de me dire non, mais tu as ta place chez toi. Bienvenue chez toi. Ça, c'est une des premières choses qu'on m'a dit quand je suis rentrée en Martinique. Bienvenue chez... Tu es ici, chez toi. Et ça, c'est hyper fort. Parce que ça veut dire que l'autre n'a pas besoin de passer par... Et ça, on en a parlé déjà, Olivier. N'a pas besoin de passer par l'hexagone ou par le regard du blanc pour pouvoir t'accueillir en tant que l'un des tiens. Et ça, c'est super fort. Ça veut dire que la réconciliation est de nouveau là. Et du coup, le lionnage peut être possible. Là, on n'est plus dans la plantation, la colonie, avec justement la question des divisions. Et ensuite, il y a la question. Dans ta question, il y a aussi la question des structures, c'est-à-dire nous avons très peu de structures de visibilité. Donc, une fois que je vais jouer une fois, deux fois à la scène nationale, comme ici au Quartz, donc là-bas, la scène nationale s'appelle Tropicatrium. Ben après, j'ai fini. C'est-à-dire que il y a très peu d'autres infrastructures qui vont pouvoir accueillir surtout les performances que je fais. Donc c'est aussi dans beaucoup de communes j'ai eu ce souci avec les services culturels de mairie le souci. Alors quand je dis le souci de la bondieuserie, ça veut dire que comme je suis nue ou je vais être un peu dénudée ou les seins à l'air, enfin bon bref, mon discours va être subversif ou un peu sulfureux. Ah non, 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 là, faut pas exagérer quoi. C'est-à-dire que du coup c'est too much, c'est trop quoi. Et comme moi je suis dans le trop, et parce que c'est ma mission de vie quoi, je suis dans le trop et c'est ça que je veux faire. Et je vais pas me m'auto-censurer. Parce que dans la plantation, on nous a appris à tu te rebelles surtout pas quoi. Parce que si tu te rebelles, le maître il te fouette à mort. Et moi, en tant que maman, je veux pas voir mon fils fouetter à mort. Donc tu vas rester tranquille. Donc toi, tu bouges pas. Tu restes là. Pella, Mandio. Et donc ça, c'est très. Tu le vois dans les centres commerciaux. Tu le vois à la sortie de la crèche. Tu le vois dans les maisons. Le fait de verrouiller, c'est-à-dire si l'enfant fait trop de bruit, ah, tu es trop agité là, qu'est-ce qui arrive à ton enfant? Pourquoi il est agité comme ça? C'est-à-dire que tout d'un coup, il faut maintenir, il faut pas se faire remarquer. Et ça par contre, ça m'attriste. Moi, je veux dire, mais putain, mais faites-vous remarquer, allons-y, faisons péter la maison du maître. C'est ça que moi j'ai envie de transmettre. Et des fois, ça passe pas, quoi, parce que. Donc la question de la rébellion, elle est, on nous a tellement écrasés, on dit mais écrase-toi, tu veux rentrer dans la maison du maître? Mais vas-y, mais fais carpette quoi, pour pouvoir rentrer dans la maison du maître. Parce que l'ultime désir, c'est ça en fait, c'est rentrer dans la maison du maître. Mais fuck la maison du maître quoi, pourquoi tu veux rentrer en fait dans la maison du maître? C'est quoi ton, tu vois? Pourquoi tu veux absolument rentrer dans la maison? Ou alors... On ne détruira pas la maison du maître avec les outils du maître. J'ai fini. Audrey Lorde, sister outsider. Outsider, en dehors de la maison du maître.